Vous écoutez, on lit pour vous.
Tour d'horizon de l'entrepreneuriat féminin, un texte commandité, paru le 18 septembre 2024 dans la presse. Le nombre d'entreprises de toutes les tailles qui sont détenues par des femmes continue de croître au pays, bien que cela se fasse lentement. Cette proportion est passée de 16 % en 2023 à 18 % en 2024, preuve qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. José Souchey-Leblanc, lauréate entrepreneur d'impact Petite Entreprise au prix Femmes d'affaires du Québec en 2023 et fondatrice de la boutique autochtone Atticus Canada, met en lumière certains défis sociétaux et souligne l'importance de faire rayonner le talent et les accomplissements d'entrepreneurs à succès. Des inégalités toujours d'actualité. La loi sur l'équité salariale fait reconnaître à sa juste valeur le travail typiquement féminin en entreprise, mais un écart de rémunération persiste entre les hommes et les femmes à la tête de ces mêmes organisations. En effet, 37,1% des entrepreneurs gagnent moins de 50 000 $ annuellement, comparativement à 31,7% de leurs homologues masculins. Les femmes représentent aussi plus de 37% des travailleurs autonomes d'un océan à l'autre. La preuve qu'il est possible d'atteindre et même surpasser la parité, la majorité des gens d'affaires autochtones sont des femmes. Les stéréotypes de genre demeurent profondément enracinés et contribuent à véhiculer certains préjugés, y compris chez les femmes. José Souchey-Leblanc a d'ailleurs grandi dans une communauté où les mères restaient au foyer pendant que les pères travaillaient, ce qui a longtemps influencé sa vision d'elle-même. « Une fois adulte, dit-elle, on a l'impression d'être une impostrice dans le milieu des affaires et qu'on doit se battre pour participer à l'économie de sa région. » Ces préjugés, même inconscients, compliquent l'accès au financement et les relations avec les fournisseurs dans des industries typiquement masculines. Il y a des domaines où on m'a longtemps fait sentir que je n'y connaissais rien parce que j'étais une femme, ajoute José Souchey-Leblanc. Développement durable et responsabilité sociale. Les femmes se démarquent par leur engagement pour le développement durable. 33% d'entre elles sont impliquées dans la réduction des déchets. Les grandes entreprises qui s'y associent favorise l'adoption de pratiques durables qui renforcent l'économie québécoise, contribuant à la diversité du leadership et à une économie plus verte. L'importance de s'entourer. À l'échelle individuelle, bâtir sa crédibilité nourrit sa confiance en soi et enclenche un cercle vertueux. Cette démarche peut se faire en développant ses compétences avec de la formation continue, en s'entourant d'expertes et d'experts pour profiter d'autres points de vue, en s'impliquant socialement, en participant à des événements économiques locaux et en s'inscrivant à des concours comme les prix Femmes d'affaires du Québec. C'est important de mettre en lumière nos femmes d'affaires, de rappeler qu'elles gèrent leur entreprise avec brio et d'en faire des modèles de réussite, rappelle José Souchey-Leblanc. Les divers acteurs de l'écosystème entrepreneurial ont, eux aussi, un rôle à jouer en mettant en place des programmes de soutien qui reconnaissent les inégalités de genre et en éliminant les barrières qui freinent l'essor des femmes en affaires. Une communauté d'affaires qui s'entraide. Bien que José Souchey-Leblanc ait été lauréate de nombreux concours, avoir la reconnaissance des prix Femmes d'affaires du Québec occupe une place bien spéciale dans son cœur. En effet, elle a eu l'occasion de rencontrer des consoeurs inspirantes venant d'entreprises de toutes les tailles pendant l'événement. La notoriété qui résulte de son prix lui a aussi ouvert des portes, en plus de mener à des collaborations, à des projets d'envergure. Selon Madame Leblanc, faire grandir son réseau d'affaires est tellement important. Il faut voir plus loin que la personne devant soi et considérer toutes les autres ressources qu'elle peut nous présenter. Le Gala Prix Femmes d'affaires du Québec est une initiative du Réseau des femmes d'affaires du Québec présentée en novembre 2024 par Desjardins et le partenaire média La Presse souligne l'excellence, le dynamisme et l'audace des femmes d'affaires de toutes les régions. Il s'agit d'ailleurs du seul événement de la province à se consacrer exclusivement à l'entrepreneuriat féminin. Les entrepreneurs d'ici sont reconnus pour leur savoir-faire, leur savoir-être, leur réalisation probante et leur rapport à l'économie locale. Avec ce concours, c'est à leur tour de briller, explique Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'était « Tour d'horizon de l'entrepreneuriat féminin », un texte commandité, paru le 18 septembre 2024 dans La Presse.
Instagram, des comptes mieux encadrés pour les ados. Un texte de Maxime Johnson, paru le 17 septembre 2024 dans Protégez-vous. Un compte Instagram privé par défaut, le mode nocturne pour restreindre l'utilisation la nuit, l'impossibilité d'être contacté par des étrangers. Avec le nouveau compte Ado, Meta impose aux adolescents certaines fonctionnalités jusqu'ici optionnelles pour mieux les protéger sur Instagram. Les parents auront aussi plus d'options s'ils veulent faire un suivi. Plusieurs fonctionnalités pour les comptes d'ado étaient déjà disponibles sur la plateforme, mais elles l'étaient en option et le jeune ou les parents devaient les activer. D'ici 60 jours environ, tous les comptes pour adolescents deviendront des comptes privés par défaut. Les photos et vidéos publiées ne pourront donc être vues que par leurs contacts. D'autres outils seront aussi mis de l'avant. Seules les personnes que les ados ont décidé de suivre pourront leur envoyer des messages privés. Les jeunes ne pourront être identifiés sur des photos que par leurs contacts. Le contenu sensible bloqué par défaut inclura, par exemple, des vidéos de bagarres, des images montrant des gens en train de fumer, certaines interventions esthétiques et, bien entendu, des contenus à caractère explicite. Les messages et les commentaires seront filtrés pour effacer des propos offensants ou qui s'apparentent à du cyberharcèlement. Les adolescents recevront une notification pour leur suggérer de fermer l'application après 60 minutes d'utilisation et le mode veille est activé par défaut toutes les nuits de 22h à 7h le lendemain matin. Il met les notifications en sourdine et envoie des réponses automatiques aux messages privés. Un ado de plus de 16 ans aura le droit de changer ses paramètres, mais les plus jeunes devront avoir votre permission pour le faire, grâce à l'outil de supervision parentale de la plateforme. Ce sont de bonnes mesures, estime Emeline Manson, fondatrice de l'entreprise de formation en prévention des fraudes et en cybersécurité SciClick. La plupart de ces paramètres devraient être obligatoires pour tout le monde. Puis-je restreindre encore plus le compte de mon enfant? Le mode de supervision parentale d'Instagram a aussi été bonifié à l'occasion du lancement des comptes pour adolescents. Si vous voulez contrôler d'un peu plus près les interactions de votre enfant sur la plateforme, vous pouvez maintenant, par exemple, voir avec qui celui-ci a discuté au cours des 7 derniers jours, sans être en mesure cependant de lire le contenu des messages. Vous pouvez également imposer une limite de temps quotidienne à votre ado, l'empêcher d'utiliser Instagram lors de certaines périodes prédéterminées, pendant les heures de cours ou la nuit, par exemple, et présélectionner les sujets des vidéos et des photos qui lui seront présentés dans l'application. Les adolescents pourront-ils simplement mentir sur leur âge? les adolescents qui souhaitent changer leur date de fête afin de se faire passer pour un adulte devront faire vérifier leur âge, comme c'est déjà le cas sur la plateforme. Il y a différentes façons de procéder, par exemple, en téléversant la photo d'une carte d'identité ou en faisant un égo-portrait vidéo qu'une intelligence artificielle scrute pour estimer l'âge de la personne. Meta a aussi annoncé la mise en place de mesures pour empêcher les adolescents de créer un second compte avec une fausse date de naissance, notamment en comparant la date avec celle des autres comptes sur son téléphone. De plus, l'entreprise affirme avoir d'autres moyens d'estimer si un utilisateur est vraiment un adulte, sans toutefois en dire plus, pour ne pas donner un manuel d'instruction aux adolescents qui leur permettrait de contourner nos efforts, selon ce qu'on peut lire dans un rapport concernant le développement des nouveaux comptes. On peut, par exemple, imaginer qu'un nouveau compte adulte qui visiterait une école secondaire tous les jours et qui serait principalement ami avec des adolescents pourrait être considéré comme suspect par les algorithmes de Meta. Quand ces comptes seront-ils offerts? Tous les nouveaux comptes créés par des utilisateurs âgés de 13 à 17 ans sont dès maintenant des comptes pour adolescents. Au Canada, tous les comptes existants dans cette tranche d'âge seront transférés vers des comptes pour adolescents au cours des 60 prochains jours. Les parents qui ne souhaitent pas attendre peuvent déjà activer la plupart des fonctionnalités des comptes pour adolescents sur le téléphone de leur enfant. Une nuisance pour le développement des enfants? La mesure de Meta est mise en place alors que l'entreprise est la cible de nombreuses critiques pour ses effets négatifs sur les jeunes. Plus de 40 États américains ont d'ailleurs poursuivi Meta en justice l'année dernière, accusant l'entreprise de nuire à la santé des enfants. Au Québec, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, CSESJ, qui a commencé ses travaux, va justement scruter ces questions. Des experts des domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux, de la sécurité publique, du droit et du numérique doivent se prononcer notamment sur le temps d'écran, sur les mesures d'encadrement à l'école et sur le web, sur la cyberintimidation et sur l'accès aux réseaux sociaux. C'était Instagram, des comptes mieux encadrés pour les ados. Un texte de Maxime Johnson paru le 17 septembre 2024 dans Protégez-vous.
Éloge de la sabbatique. Un texte de Sylvia Galipo paru le 22 septembre 2024 dans La Presse. Et si on prenait une pause? Et si on pouvait tous, au beau milieu de nos vies, quelque part après les enfants, mais avant la retraite, prendre quelques mois à nous, rien qu'à nous? Certains le font déjà, pour des tas de raisons pratico-pratiques ou philosophiques, notamment parce que la vie passe trop vite. Prendre du temps, du recul, se reposer, retrouver son jus mental et aussi physique. Changer de rythme, quoi. Pour faire quoi? Se retrouver. Et faire le point essentiellement sur sa vie et ce qu'on souhaite faire de ce qu'il en reste. En cette folle rentrée à la vitesse grand V, avouez que ça fait rêver. C'est justement ce qui revient constamment en interviewant des gens qui ont pris ce genre de congé longue durée, sabbatique et autres différés, parfois à leurs frais. Parlons de frais. Et avant d'aller plus loin, une précision. Nous n'entrerons pas ici dans une analyse pointue des stratégies financières pour concrétiser un tel congé. Ce sont les considérations plus existentielles qui nous intéressent ici. Le monde du travail va beaucoup trop vite. Les gens oublient qu'il y a autre chose. Un temps d'arrêt pour moi, c'est toujours bénéfique, confie Marie Grenier, fonctionnaire à Ottawa, qui a pris une année dernièrement pour faire du clown. À 55 ans, et après une carrière en coopération internationale, elle le sait, cette année à étudier la discipline et faire du théâtre communautaire lui a offert un moment de recul drôlement éclairant. Est-ce que je veux continuer dans mon domaine ou faire autre chose? Parce que si je veux faire autre chose, c'est maintenant que ça se passe. On n'a jamais le temps de se poser ces questions, confirme Karine Glorieux, professeure au cégep et autrice, rencontrée à la rentrée scolaire, sa toute première semaine épuisée, après 8 mois de congés différés à ses frais. C'est quand on reprend le rythme qu'on réalise à quel point on s'était habitué à une certaine lenteur, laisse-t-elle tomber. Pendant les derniers mois, en plus de voyager et de fêter ses 50 ans, sans conjoint ni enfant, mais avec des copines, quelque part en Thaïlande, elle a surtout écrit un livre et planché sur des projets de scénarisation. Avant de ne plus avoir d'énergie, c'est beau de s'offrir une pause, sortir de sa propre vie, imaginer une autre vie possible, fait-elle valoir, on est quand même forcé de réaliser à quel point la vie est courte. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Il faut se poser la question parce qu'on a encore la possibilité de faire plein de choses. Oui, ce genre de réflexion prend du temps, ajoute la mère de 3 enfants qui enseigne la littérature depuis plus de 20 ans. Elle en a profité ici pour souffler, arrêter de courir, sans être sans cesse écartelée entre différentes obligations. Ce n'est pas vrai qu'un spa le samedi après-midi, c'est suffisant pour la santé mentale. Ça prend plus que ça. C'est quand tu arrêtes que tu réalises la fatigue accumulée, renchérit Richard Fahey, 56 ans, avocat de formation, forcé de prendre 2 congés indemnisés en raison de réorganisations dans différentes organisations où il a travaillé. Ça m'a donné le luxe de me poser des questions, de me reposer, voir où je voulais aller. Tendance, crise de la quarantaine. Dennis D.G. Didona, fondateur du Sabbatical Project à San Francisco, organisme voué à la démocratisation des sabbatiques, y voit en prime un effet de la pandémie. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de burn-out. Or, depuis la pandémie, les gens ont réalisé que la vie était courte et précieuse, dit-il. C'est comme si le travail n'était plus la chose la plus importante. L'entrepreneur de 42 ans a lui-même frôlé l'épuisement avant de tout lâcher pour partir quelques mois en pèlerinage au Japon et en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. À son retour, il a décidé de documenter les bienfaits des sabbatiques, des congés étrangement jusqu'ici peu étudiés. Après une 50aine d'entrevues, il a coécrit un article publié dans le Harvard Business Review, « The Transformative Power of Sabbaticals » en 2023, et planche sur un livre, « Time Off Well Spent », à paraître prochainement. Depuis, il a recueilli quelque 300 témoignages. Tout le monde qui l'a fait le dit. C'est l'une des choses les plus importantes jamais réalisées à vie. Il y a quelque chose de profond qui se passe, notamment une énergie renouvelée et plus de créativité. Parlez-en à Lydia Yakonovsky, économiste depuis 20 ans, qui vient de prendre une année de retraite dans sa quarantaine pour se consacrer à sa passion, l'art. Vigie sur la scène électronique de Montréal dans ses rares temps libres, l'économiste en sabbatique a passé l'année à créer. Je me suis accordé une liberté absolue de création. Elle s'est aussi donné du temps pour prendre un gros pas de recul et vivre le deuil de différents projets de vie. Ça arrive aussi. Ce congé, pris à ses frais, c'est la pire décision financière, pouvait-elle de rire, mais la meilleure pour elle. En quoi? Le confort dans la vie personnelle englue, philosophe-t-elle. Si tu es inconfortable, c'est là que tu peux te reconstruire comme tu veux, comme tu es. On devine qu'elle a beaucoup réfléchi pendant les derniers mois. J'ai vraiment l'impression d'avoir grandi. C'est cliché, mais j'ai évolué, Vous écoutez « Éloge de la sabbatique », un texte de Sylvia Galipeau, paru le 22 septembre 2024 dans La Presse. Seul point négatif à la sabbatique, lequel est revenu à plusieurs reprises dans le cadre de ce reportage. Sa fin. Retour au boulot. C'est comme si le congé n'avait pas existé, déplore à son tour Natacha Liedernstrass, professeure d'art visuel au Cégep, qui vient de prendre 6 mois pour prendre le temps de prendre le temps et se consacrer elle aussi à son art. À peine les cours recommencés, on se fait happer. Ne le dites pas à Dominique Vézina, qui part à la fin du mois avec un aller simple pour Hanoï. L'entrepreneur social de 49 ans en a soupé des heures de fou. Il a décidé de tout plaquer, voir ailleurs s'il y était, en sous-louant son appartement et vidant ses économies. C'est une remise en question généralisée, résume l'homme, attablé un vendredi ensoleillé devant une bière à quelques jours de son départ. Célibataire, les enfants, partis en appartement, et à la veille de la cinquantaine, il a fait une réalisation. « Il faut que je ralentisse, dit-il. Je veux me ressourcer pour mieux planifier la suite. Qu'est-ce que je suis véritablement? Qu'est-ce que j'ai envie de léguer? » Si on était réellement une société progressiste, au lieu de congés maladie, on aurait des congés pour se questionner. Pourquoi attendre de craquer avant de réfléchir? Dans la dernière année, il a perdu 4 amis de son âge. Les gens partent. Je suis le prochain sur la liste, lance-t-il. Alors, est-ce que je peux avoir du fun? Une sabbatique, est-ce pour moi? Que ce soit pour souffler, voir le monde, ou vous lancer dans un projet qui s'insère mal dans votre horaire surchargé, les raisons ne manquent pas de rêver, de s'éclipser quelques mois ou une année, mais elles ne se valent pas non plus. Le point avec deux experts. Il existe 1000 et 1 raisons de vouloir partir en congé sabbatique. Est-ce qu'il y a de meilleurs motifs que d'autres? Les psychologues du travail distinguent 3 types de congés sabbatiques. Les congés centrés sur un projet, écrire un livre, suivre un cours, etc., sur une expérience de vie déstructurée, typiquement pour voyager, et sur une quête. Qui suis-je? Où vais-je? Est-ce que mon boulot me convient encore? C'est dans cette 3e catégorie qu'il pourrait y avoir de moins bonnes raisons de vouloir disparaître un an. Est-ce que je suis épuisé? Est-ce que je pars pour éviter un environnement de travail difficile? Une année sabbatique n'est certainement pas un bon moyen de traiter un épuisement professionnel, tranche le psychologue Nicolas Chevrier, directeur clinique des services psychologiques Sequoia. Si je ne suis plus capable, je vais en congé maladie et je vais voir un professionnel. Mais est-ce que la quête existentielle peut tout de même être une bonne raison de partir en congé sabbatique? Il faut se poser honnêtement la question, répond le psychologue. Si c'est pour fuir, il y a un problème. Si c'est pour vivre autre chose, on est sur le bon chemin. Par exemple, si la sabbatique sert de prétexte à une mise au point sur la place du travail dans notre vie, le sens qu'on y accorde, ce qu'on rêve de faire, mais qu'on n'a peut-être jamais eu le temps de réaliser, Nicolas Chevrier voit cela d'un très bon œil. Elle se rapproche, ce faisant, de la sabbatique de type projet. Le seul élément qui n'est pas positif, c'est si la sabbatique sert d'évitement. Pourquoi vivre autre chose est-il si bon au juste? Pour des tas de raisons. Entre autres, parce que cela permet au cerveau de déconnecter du boulot et, ce faisant, de récupérer. Et c'est apparemment en voyageant que l'on déconnecte le plus efficacement et qu'on se sent ensuite le plus régénéré. Probablement parce que c'est parce qu'à l'étranger, culturellement et linguistiquement, on se détache, signale le psychologue. Donc, on revient d'autant plus reposé cognitivement. Ce n'est pas tout. Hors de nos contrées, on sollicite nos capacités d'adaptation, on apprend à se connaître, à se définir et on développe en outre un sentiment d'auto-efficacité. Solliciter l'adaptation, c'est toujours bon. Si c'est toujours bon, est-ce que tout le monde devrait prendre une sabbatique à un moment ou un autre? Mais est-ce que tout le monde aurait envie de partir en sabbatique? Rétorque le psychologue. Il y a des gens tellement bien dans leur travail qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire autre chose un an. Or, la sabbatique, c'est beaucoup ça. Faire autre chose. Ne vous sentez donc pas normal si ça ne vous branche pas. Oui, je le conseille à tous, dans la mesure où vous en avez envie et vous pouvez vous le permettre. Mais si ça ne vous tente pas, c'est aussi très correct. À noter qu'une sabbatique peut aussi, et dans certains cas, avoir un impact négatif sur une carrière ou, à tout le moins, ralentir une progression professionnelle. C'est à prendre en considération. Et puis, tous les métiers ne tolèrent tout simplement pas de se débrancher une année. C'est un fait. Tout le monde ne peut pas non plus se le permettre financièrement ou personnellement, malheureusement. Comment s'assurer de déconnecter si on ne part pas une année alors? Vous voulez ralentir, prendre une pause, du temps pour vous? La sabbatique n'est pas non plus la seule solution, fait valoir Diane Gabrielle Tremblay, sociologue du travail à la TELUC. Un moyen. Intégrer des activités variées à son quotidien, que ce soit des activités sportives, créatives ou autres. Objectif? Trouver un équilibre, dit-elle. Idéalement, les gens devraient se définir par différentes composantes. Et s'engager dans d'autres activités quelques jours par semaine peut combler les aspirations de faire autre chose que le travail. À cet effet, elle souligne que les entreprises ont tout intérêt à offrir la flexibilité nécessaire pour y arriver. Que ce soit des horaires plus souples, la semaine de 4 jours, voire du temps partiel. Pourquoi? Parce qu'un employé heureux est un employé plus engagé. Et cela favorise la rétention du personnel. Tout le monde ici est gagnant. On n'y échappe pas. Le bonheur, conclut-elle, c'est l'équilibre. C'était « Éloge la sabbatique », un texte de Sylvia Galipeau, paru le 22 septembre 2024 dans La Presse.